Alors, évidemment, bon, quand j'ai ouvert, je me suis dit, c'est quand même bizarre, je ne me souviens pas d'avoir vu, citer des chansons chez Balzac. Et je vois bien des références à l'opéra, de Rossini, encore.
Ouais, ouais, ouais.
Mais je n'avais pas repéré le fait que la chanson de rue était, on peut appeler ça la chanson de rue, je présume.
Oui, ou de peut-être du caveau ou de la goguette, ou parce que là, pour le coup, on est plutôt sur une chanson littéraire. Vous voyez, c'est pas la complainte de rue. Ouais, mmh. C'est fait par des lettrés. Mmh. Ouais.
Et pourquoi? Alors, qu'est-ce qui fait différencier le caveau et la goguette?
La goguette, on est peut-être dans quelque chose de plus détendu, hein, on va dire, où on va passer un bon moment à écouter la chanson, où il y a un public peut-être. Et le caveau, en tout cas, le caveau. C'est vraiment des messieurs qui se rencontrent entre eux pour créer des chansons. Voilà, il y a peut-être, on a un premier caveau qui est dans les années 1700 et quelques, hein, où il y a Rameau notamment, entre autres, qui en fait partie, et où c'était déjà des intellectuels qui se réunissaient pour écrire des chansons. Voilà.
Et parce que bon, j'ai lu caveau moderne. Alors c'est
le caveau moderne par rapport à ce caveau. Alors cela dit, je crois que le premier caveau, même au 18e, a cette cotation de caveau moderne, dans cette modernité, en tout cas, ouais, de provoquer la chanson contemporaine. Pour eux, c'était une chanson contemporaine. Voilà.
Vous choisissez donc la comédie humaine, chanson balzacienne. Alors, on dit chanson balzacienne. Alors, précisez.
Alors, chanson balzacienne, parce que ce ne sont pas des chansons de Balzac, déjà pour... voilà, il n'a pas écrit de chansons. Ce ne sont pas des chansons qu'on retrouve dans la comédie humaine directement. En revanche, moi j'ai l'impression, dans ce que j'ai construit, j'évoque l'univers balzacien. Voilà, c'est plutôt ça que j'ai essayé de faire, en m'appuyant aussi sur les recherches de Romain, donc lui qui a fait un travail universitaire sur Béranger, voilà, qui pour moi est un petit peu l'œuvre centrale, hein, de ce 19e siècle, et qui était quand même, c'est des chansons absolument contemporaines de la période de Balzac, de sa vie, quoi. Donc c'était un petit peu imaginer ces chansons qu'il a pu côtoyer, voilà, parce que n'oublions pas qu'à cette époque, il y avait pas d'enregistrement, il y avait pas de radio, il y avait rien du tout, et voilà, il y avait quand même de la musique et des chansons qui circulaient considérablement.
Et c'est en même temps le début du quotidien, du journal.
Absolument. C'est même pas le début. On pourrait dire que c'est la continuité, parce que déjà au XVIIIe siècle, il y a cette tradition de la chanson omniprésente en tant que média. Vous avez parlé donc du journal pour parler de tous les faits, hein, de quotidien, et puis même peut-être un peu plus spirituel, on va dire. Alors ça, c'est peut-être encore plus la chanson du 19e qu'invente la chanson philosophique avec, c'est peut-être un grand mot, mais Béranger, en tout cas, il y a un petit peu cette vue d'une chanson supérieure. Mais pour moi, oui, journalisme et chanson, c'est un petit peu la même histoire.
Oui, parce qu'il y a Émile de Gérardin, c'est de 1837-36, sort son journal qui va être à un sou. C'est donc vraiment la première fois où on va voir presque l'opinion publique va avoir une existence. Et dans la chanson, on a l'impression qu'il y a la parole de l'opinion publique.
Ah oui, en tout cas, c'est comme ça qu'elle se revendique. J'ai l'impression, en plus, qu'il y a cette parole de l'opinion publique, et puis cette spontanéité. On est dans le... Alors, je ne sais pas si c'est le mot fait divers, en tout cas, qui est là, mais on est vraiment dans quelque chose qui se revendique comme peut-être plus populaire. C'est d'ailleurs Baudelaire qui le dit dans sa préface des chansons de Pierre Dupont. En quelque sorte, on pourrait dire qu'avec la chanson, le peuple a trouvé sa poésie. Voilà, c'est ce que dit un petit peu Baudelaire.
Ouais. Oui, puis en même temps, le crime, puisque un des premiers romans qui met en scène le crime, le Pont Rouge, je crois, c'est ça, ce roman, c'est de cette époque-là. C'était la grande référence.
Oui, et c'est la grande époque aussi. Alors ça, je l'évoquais dans un disque précédent, justement, qui est plus la complainte de rue, c'est la complainte de Fualdès, qui va illustrer plein de chansons un peu morbides, comme ça, de faits divers, de crimes, tout au long du 19e siècle.
Ouais. Alors, pour moi, c'était une redécouverte, c'était Marc-Antoine Dessaugiers, qui est manifestement au centre, ou du moins à la périphérie, mais étant la périphérie, on a l'impression qu'il est au centre par rapport à Béranger, cette fois-ci.
il est peut-être plus au centre que Béranger, d'ailleurs, parce qu'il est un petit peu antérieur, et qu'il est vraiment, alors là, dans cet esprit, je dirais, d'une promenade parisienne, d'une déambulation, un petit peu comme on peut le voir hein, régulièrement dans l'univers du roman balzacien, où on recrée grâce à ces chansons l'urbanisme parisien. Voilà, c'est un petit peu ça, avec ses échos, avec ses ambiances, avec ses endroits pour s'amuser, avec ses endroits pour s'aimer, pour être plus sérieux, pour comploter. En tout cas, il y a un petit peu de tout ça dans l'univers de Désaugiers. Ouais.
Oui, parce qu'il meurt en 1827.
Oui, ouais.
Donc il est à cheval sur le début de la Révolution, pas le début de la Révolution, il est dans la Révolution.
En étant lui-même plutôt contre la Révolution, hein, puisqu'il va partir, je crois, à Saint-Domingue, et il va subir la révolte, etc. Enfin, il a une existence absolument incroyable. Mais oui, il commence la Révolution pour ses chansons, absolument.
Alors, en plus, il est l'inventeur. Alors, moi, je connaissais Cadet Roussel, mais Cadet Buteux, je ne le connaissais pas. Qu'est-ce que c'est?
Ouais. Alors, Cadet Buteux, c'est une espèce de benet, hein, voilà, par ce personnage qui découvre les endroits, en tout cas un petit peu importants de Paris, et ces endroits aussi de la culture, parce que là, bon, j'ai choisi Cadet Buteux au Faubourg du Temple, mais il y a aussi Cadet Buteux qui, par exemple, alors ça je le ferai un petit peu plus tard dans un autre projet, mais qui découvre l'opéra le plus important au début du XIXe siècle, la Vestale. Et il y a Cadet Buteux à l'opéra, par exemple, et qui pendant 20 minutes va nous raconter d'une manière, c'est un petit peu ce provincial, entre guillemets, pour les Parisiens, qui découvre cet univers, et avec ses yeux, comme ça, c'est un peu le Fernandel, voilà, c'est Simplet, en quelque sorte, qui est là.
Mais en même temps, quand j'ai regardé, effectivement, des pièces comme Le Paria et d'autres pièces, j'étais étonné en me disant, mais il a la langue de Céline, il écrit comme Céline.
C'est plutôt juste que vous dites, parce que Céline, il a toute cette culture de la langue de la chanson parisienne. C'est vraiment, rappelons-nous que c'est un fin connaisseur de l'opéra comique, c'est un fin connaisseur de l'opérette, c'est un fin connaisseur de tout ce qui est cet esprit kafkonce, le kafkonce qui est plus tardif, hein, mais qui lui-même est héritier de cet univers de Désaugiers. Ouais.
Alors, en même temps, comment on trouve les partitions? Parce que, bon, ayant été bibliothécaire, je me dis toujours, on doit trouver vaguement une ligne. Est-ce que vous avez fait un travail de réorchestration, de réharmonisation?
Oui, parce que l'essentiel de mon travail, depuis que je m'intéresse à la chanson, c'est d'être confronté à ce qu'on appelle des timbres ou des vaudevilles, c'est-à-dire juste les mélodies, ce qui est finalement plutôt bénéfique pour moi, parce qu'après, on a tout le reste à faire. Donc, libre à mes interprètes, libre à moi-même, moi je leur amène des propositions, et puis après je choisis, je détermine des instrumentistes qui m'accompagnent dans cette aventure, et qui vont vraiment faire un travail de réappropriation. Ça pour moi c'est essentiel. C'est, en plus on est dans, je dirais, dans le nerf de ce 19e siècle, où les plus grands, ceux qu'on peut imaginer, je sais pas, moi je pensais Schubert, Beethoven ou Chopin, ils sont complètement en train de créer. Et ce que nous, maintenant, on considère comme des monuments, eh bien, au dernier moment, je dirais, alors je sais pas pour tous, mais 2 minutes avant de le jouer, ils sont en train de le créer, ils vont le modifier, ça bouge, ça s'agite. Enfin, pour moi, c'est des partitions qui grouillent comme des insectes. Voilà, les notes, c'est des insectes qui bougent dans tous les sens. Ouais.
Et alors, en même temps, ce que l'on perçoit dans votre travail, c'est l'aspect radiophonique. Il y a une mise en profondeur de la chanson.
C'est exactement cela, c'est-à-dire que, bien sûr, sur une longue période de la chanson, cet esprit radiophonique n'existe pas. En tout cas, la technicité, mais il y a toute une mise en abîme de ce que pouvait apercevoir, lire ceux qui écoutaient ou qui disaient une chanson. C'est-à-dire que quand on lit une chanson à leur époque, on a la musique, elle surgit, et je pense qu'il y a tout un univers, toute une création que nous, peut-être aujourd'hui, nous ne sommes plus capables, parce que pour nous, une chanson, c'est fait pour être écoutée. Voilà, c'est, et même de plus en plus, on n'est même plus interprète de la chanson, hein, on est toujours on est toujours l'auditeur, alors que le premier rapport avec la chanson, c'était la lecture. Sur cette lecture, on avait sur l'air d'eux, et il y avait tout un imaginaire qui se mettait en route.
Alors, on le perçoit d'emblée, parce que dès que commence la première chanson, c'est Paris s'éveille.
Absolument, voilà, c'est ça, bah oui, Lanzmann qui dit-on, récupère déjà d'ailleurs ces 5 heures du matin, et c'est toute cette ambiance, c'est une mise en scène, c'est même du film pour moi, c'est vraiment, j'ai l'impression, on est un petit peu comme, je me répète un petit peu toujours, mais c'est mes obsessions, on est toujours dans Les Enfants du Paradis, hein, où il y a ces trois personnages centraux qui peuvent être la snare, deux bureaux, et puis...
Frédéric Lemaître. Frédéric Lemaître.
Et Lemaître, voilà, absolument. Pour moi, c'est toujours ça qui m'obsède encore et toujours, c'est-à-dire mettre en mouvement cette caméra dans la chanson, créer une histoire.
Alors j'ai vu dans certaines chansons, il y a comme presque un petit tableau sur le livre.
Ouais.
La lecture.
Bah, qu'est extraordinaire. Cette chanson de Pierre Dupont, c'est pour moi... Quand on est amateur du livre, il y a un moment où on a un rapport sensuel, érotique avec le livre. Et puis il y a aussi cette chose, alors quand on est une femme ou un homme, du lecteur aimé, de la lectrice aimée, il y a quelque chose, ça incarne quelque chose de complètement sensuel, j'ai l'impression. En tout cas, moi, j'ai été émerveillé par rapport à cette chanson qui est parfaite, quoi, quand on aime la lecture.
Alors aussi, Béranger est là. Ah, l'âme, oui. Et le corps, qui est vraiment une thématique très présente dans la manière de concevoir chez Béranger.
Une pardon ?
L'âme et le corps.
Oui.
Cette chanson où c'est le jeu de cette dualité entre ces deux composantes. Est-ce que c'est en même temps quelque chose qui apparaît, parce qu'on est dans l'époque du romantisme naissant.
Absolument. Ouais. C'est toujours quelque chose qui est assez omniprésent, en tout cas dans l'œuvre de Béranger. Oui, absolument. Ouais.
Alors je suis surpris, Brillat Savarin. Je le voyais plutôt à table, mais là, je l'ai vu. Faisant une chanson de table.
Bah vous imaginez, non, mais c'est juste... j'ai pas pu aller plus loin dans ma recherche. Hein, c'est un peu par hasard, finalement, que j'ai trouvé. Et c'est juste génial de voir cette physiologie du goût, donc qui est quand même un ouvrage super important pour qui aime la gastronomie. On sait que la gastronomie, c'est quelque chose qui est là dans l'œuvre balzacienne. Aussi dans celui qu'il adore, Rossini, cette espèce de charivari comme ça dans tous les sens, pour moi il y a vraiment ça. Et puis avant qu'il ne soit ce grand cuisinier, quand il était sans doute, j'imagine, étudiant, il a fait comme tous ces messieurs à cette époque, il a écrit sa chansonnette, parce que c'est pas une grande chanson, hein, convenons-en.
Non, bien
sûr,
mais
je trouve que c'est un rendez-vous extraordinaire pour moi.
En même temps, ce qui m'a intéressé, c'est la notion du parler chanter. Il y a toujours dans cette manière, d'abord on conserve toujours le mot, mais il y a une espèce d'aspect parler chanter. Hmm. Et ça,
pour moi, c'est quelque chose d'important. Je crois mes interprètes, hein, qu'en plus sont plutôt des interprètes de talent opératique, mais on doit comprendre avant toute chose le mot et bien mettre en évidence, alors sauf peut-être certaines mélodies, parce que c'est vrai que par exemple Dupont. C'est lui-même en plus qui écrit ses mélodies. C'est pas, il les a pas recueillies, il les crée. Il y a vraiment une ligne. Il y a une ligne de chant qui est là, mais globalement, c'est vrai qu'on n'est pas sur du bel canto. On est vraiment sur du parler chanté, qui est important, hein, parce que même quand on fait de la tragédie lyrique, les premières tragédies, la référence même, c'était quoi? C'était l'éloquence. Hein, c'était une manière de parler. Alors là, qui est autre dans la chanson, on va pas prendre le même ambitus que dans l'opéra. Mais c'est quand même l'origine.
Oui, et justement, vous parliez tout à l'heure de Schubert. Schubert, il meurt en 1828. Et je me suis dit que certains cycles de chansons de Schubert avaient une proximité.
Je suis absolument d'accord. Mais en fait, moi, je ressasse toujours un petit peu les mêmes trucs. Mais on a manqué quelque chose. On n'a pas eu de grands compositeurs qui se sont...
Emparés,
voilà, de répertoire. Mais... Imaginez soudainement des chansons. Il y en a eu quelques-unes, hein, de Béranger, qui ont été mises en musique par Schubert, par Wagner, par Delibes. Mais c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Mais imaginez soudainement, par exemple, toutes ces chansons mises en musique par des grands compositeurs. Je suis sûr qu'on aura un tout autre rapport et que nous, puisque c'est notre langue, on jubilerait, on serait vraiment dans des Schubertiades où on ne serait pas qu'à apprécier la musique, on serait à apprécier les poètes. Et c'est ça que moi j'essaie, voilà, de vouloir recréer, de me dire, bon bah voilà, c'est comme ça, c'est notre histoire, hein, il n'y a pas, je crois, c'est un petit peu plus tard, mais après l'esprit foréen ou l'esprit de la mélodie française, c'est notre histoire et puis c'est notre poésie.
C'est aussi le moment de la naissance de la caricature, parce que les escargots, c'est un portrait, qui semble représenter un petit peu de la manière dont on est croqué certains faits de justice de la vie sociale à cette époque-là.
Entre Daumier, entre Granville, voilà, on est vraiment dans cette importance de l'illustration et qui pour moi aussi, c'est toujours quelque chose qui m'a fasciné dans les vieux ouvrages. Voilà, c'est vraiment, quand on est un petit peu bibliophile, on sait très bien aussi qu'on on n'achète pas un livre que pour son contenu littéraire, mais pour tout ce qui, voilà, ce qui le rend encore plus savoureux. Et Dieu sait que les illustrations, c'est quelque chose d'absolument génial. Bon, en tout cas, c'est comme ça que j'ai un petit peu conçu mes chansons en me replongeant dans des éditions de Balzac et en regardant les illustrations. Voilà, qui nous rend plus populaire, qui nous le rend encore plus proche.
Vous avez d'autres projets? Quels sont les autres projets que vous avez? Parce que là, vous avez ouvert des portes, des fenêtres, on peut presque dire, sur un monde que l'on connaît mal, en fait.
C'est vrai. Bah oui, j'avoue, pourquoi pas, on allait vers Balzac, on pourrait tout à fait aller vers Zola. Il y a tout un univers de la chanson. Il y a beaucoup de romans de Zola et de personnages qui, pour le coup, ont vraiment été mis en chanson. Donc ça, il y a quelque chose de passionnant. J'ai fait un disque Nadeau aussi, Gustave Nadeau, qui est lui plutôt de Second Empire. Il y a tellement de chansons, mais qui illustrent ce 19e siècle de manière passionnante et qui nous remet en une autre relation avec le Second Empire. Parce que c'est vrai que souvent, il faut qu'on tranche un petit peu. Est-ce qu'on est communard ou est-ce qu'on est... Et moi, j'aime bien me remettre en question, même sur mes propres convictions. Et puis, il y a d'autres écrivains. Hein. Je vous ai parlé, bien sûr, de Dupont, là, j'ai commencé à faire, mais il y aurait tellement de choses à faire par rapport à lui. Il y a... avec Orsay, je vais avoir un projet sur le Chat Noir. Bon, c'est plus évident.
Oui,
mais si on se mettait à faire toutes les chansons d'Aristide Bruand aujourd'hui, ce serait très compliqué par rapport à toutes ces thématiques, par rapport à vous avez parlé de caricature, mais toute cette censure aujourd'hui qui nous étouffe finalement, où on oublie parfois que l'interprète ou même celui qui va éditer, hein, l'éditeur n'est pas obligatoirement, il pense pas la même chose de ce qu'il est en train de proposer. Voilà, c'est toutes ces choses-là. On a parlé de Céline et la chanson parisienne, il y aurait des choses à faire. Enfin, il y a plein de projets qui sont possibles. Ouais.
Arnaud Zorati, est-ce que Eugène Sue aurait pu entrer dans votre parcours ou est-ce qu'il est quelqu'un d'à part?
Alors, il aurait pu, mais je vous avoue que, en fait, je le connais pas assez. Je le connais peut-être comme on le connaît beaucoup quand on fréquente le 19e siècle, mais je l'ai pas tant lu que ça. Mais j'imagine qu'il doit y avoir très certainement un univers parisien à aller découvrir par rapport à ça, et surtout populaire, quoi.
Ouais. Bah, le cinéma muet, on est vraiment emparé.
Ouais.
C'est le paradoxe. Je vois que le cinéma muet s'est beaucoup emparé de Eugène Sue, alors que je me suis dit peut-être qu'il faudrait lui redonner une voix en cherchant dans...
Ah, oui, c'est possible.
Alors, pourquoi Les Lunésiens?
Alors, Les Lunésiens, tout simplement... Alors. C'est un peu piégeux, parce que c'est Raymond Queneau qui a dit « Les Lunésiens, c'est les habitants de la Lune ». Mais je n'arrive plus à retrouver dans quel roman il a dit ça. Alors je lance un appel, parce que j'en suis quasi sûr, mais j'arrête pas de dire « Oh, c'est Raymond Queneau ». Mais surtout parce que aussi j'ai fait beaucoup de musique baroque, avec plaisir, hein, mais qui était plutôt dans un geste solaire. J'ai fait beaucoup de musique du XVIIe siècle, Louis XIVe, etc., avec nos rois. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est pas moi. Ça, c'est même si j'aime beaucoup ça, et j'ai trouvé que d'être un petit peu sous la protection de la lune, bah, il y avait ce... Et puis c'est le Chat Noir, hein, quelque chose qui pour moi est très important. C'est ce double langage, c'est ce besoin aussi de se cacher. N'oublions pas que les chansonniers, pour beaucoup, ont été poursuivis. On est mort pour des chansons aussi. C'est quelque chose dont peut-être on a plus conscience aujourd'hui, mais ça existe aussi dans moult pays comme ça, où on peut mourir pour quelques couplets qui déplaisent.
Il y a Cyrano de Bergerac et Le Voyage sur la Lune.
Absolument, aussi, ouais, bah ce langage des oiseaux, quoi, aussi, que je trouve assez fascinant, qu'on retrouve. Après, je ne sais pas si c'est vrai, etc., mais qu'on retrouve dans cette tradition du chansonnier, voilà, d'Adam Billaud, de tout ça, où il y a une espèce de confrérie comme ça sacrée du mot goûteux.
Ben merci Arnaud Mazzorati. Et puis il faut prendre ce disque sans saisir la comédie humaine. Je trouve qu'on a trouvé, que vous avez trouvé quelque chose, une exploration de quelque chose qui nous est peut-être inconnu. On a les romans, mais souvent il nous manque la bande son.
Voilà, la petite musique, c'est ça. Balzac fait partie de ceux finalement qui n'ont pas musicalement inspiré de grandes œuvres, quoi. Il y a pas de, et c'est peut-être ça qui est plutôt intéressant, c'est qu'il est dans l'intime. J'ai vraiment l'impression que c'est ça qu'on adore chez Balzac, c'est ces petits personnages, c'est ces petits coins comme ça dissimulés. Il y a beaucoup de nocturnes chez Balzac, donc c'est de la musique comme ça qui ronronne, j'espère.
Ouais. Et Alpha, comment ils vous ont trouvé et qu'est-ce qui les a attirés?
J'ai une complicité avec Alpha. Alors ça a changé, hein, depuis de propriétaire, etc., mais avec Jean-Paul Combet, donc qui était le fondateur d'Alpha, qui m'a fait le premier confiance avec mon Béranger, avec mon ado, avec on en a fait plusieurs comme ça, et là on est revenu chez eux. J'espère qu'ils vont continuer à nous accompagner. Je trouve que c'est une édition assez pertinente pour l'expérience que je propose, parce que c'est vrai que c'est une expérience, hein, il faut l'admettre, et peut-être tant mieux. Ça reste la chanson, une œuvre intime. C'est pas comme aujourd'hui où on doit être sur du planétaire, etc. Là, on est sur quelque chose où on y va doucement, on n'y va pas, et c'est pas si grave. Mais c'est important que ce soit là.
Ouais. Ben merci Arnaud Mazzorati, et puis longue vie.
On va essayer de poursuivre ça. Voilà.
Ben merci.
Ben merci beaucoup.